Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou. Il a été nommé le 3 juin dernier et c'est par un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts qu'il a pris ses fonctions le 27 juin. Monsieur le sous-préfet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, Pierre Gay, en 1954, disait « Il n'y a pas de fonctionnaire à la fois plus connu et méconnu que le sous-préfet ». Effectivement, les missions de ce haut fonctionnaire de terrain sont peut-être peu connues des citoyens qui, paradoxalement, sont majoritairement au fait de son existence. Alors, justement, monsieur le sous-préfet, avant d'en venir à votre fonction, j'aimerais bien que vous évoquiez votre parcours, puisque vous êtes nouvellement sous-préfet et nouvellement aussi à Nogent-le-Rotrou.
Mon parcours, je peux vous l'évoquer d'une manière très, très personnelle, c'est-à-dire que la plupart de mes collègues sous-préfets, nous sommes des fonctionnaires ayant un passé soit au ministère de l'Intérieur, soit dans une autre administration.
Oui.
Ou alors de jeunes collègues sortis de l'ENA, ou enfin des fonctionnaires issus d'autres ministères, d'autres corps.
Et vous-même alors ?
Moi-même, j'ai fait des études de droit et puis je suis rentré au ministère de l'Intérieur en 2003, après avoir fait différents métiers sur une première partie de ma vie où
oui.
J'ai essayé de devenir maître de conférences en province, à Limoges. Ça a été mon objectif pendant 6-7 ans.
En fait, tout votre parcours s'est passé à Limoges.
Essentiellement
vos études
en Limousin.
Secondaires.
Essentiellement en Limousin, études secondaires, oui, excepté le collège, où le collège, j'étais en Auvergne notamment.
Oui. Alors, voilà. Vos parents sont originaires de l'Auvergne ?
Mes parents sont originaires d'Auvergne et d'Aquitaine.
Voilà. Et votre père était gendarme, je crois.
Et mon père était effectivement gendarme. Il a terminé sa carrière à Bellac, en Haute-Vienne,
oui,
la ville de Jean Giraudoux.
Voilà. Alors, vous êtes donc à Limoges, vous avez envie de faire du droit et de participer de ce fait, peut-être à un ministère.
Alors, en faisant du droit, j'ai d'abord eu le goût de l'enseignement, comme je vous l'ai expliqué. Donc, pour enseigner en droit, il n'y a pas beaucoup de voies d'accès possibles, il faut avoir une thèse. Donc, j'ai fait un doctorat de droit que je n'ai pas soutenu. Finalement, à quelques mois de l'échéance, le challenge me semblait un peu trop gros. Et donc, je me suis reconverti vers des concours administratifs et en particulier celui des instituts régionaux d'administration. J'ai donc abandonné cette idée, du moins abandonné temporairement cette idée d'enseignant pour me consacrer à une vie active, administrative. Donc, j'ai passé l'Institut régional d'administration de Nantes, puis j'ai fait un an de scolarité à Nantes, avant d'intégrer le ministère de l'Intérieur à la préfecture de l'Essonne, dans laquelle j'ai exercé pendant 9 ans.
D'ailleurs, vous êtes marié et votre épouse est aussi dans l'Essonne, c'est bien cela?
Voilà, mon épouse est dans l'Essonne. Alors, elle a fait un parcours un petit peu plus court après un DEA de droit privé. Elle a tout de suite passé des concours administratifs et elle est effectivement fonctionnaire, premier greffier. Et donc, elle est toujours à Évry, dans l'Essonne. Et nous avons fait un jeu de célibat géographique successif, d'abord elle, puis moi, avant de nous retrouver finalement dans l'Essonne et puis de nous reséparer à nouveau, puisque entre-temps, nous avons fait 3 garçons.
Oui, vous avez trois enfants et je crois que l'aîné va passer son baccalauréat, c'est ça ?
Voilà, il passe son baccalauréat STI2D, donc ce n'est pas du tout un juriste, un futur juriste a priori. Mm-hmm. Il le passe l'année prochaine et il souhaite rester avec ses camarades sur Évry. C'est pour ça que je suis célibataire géographique, malgré les attraits nombreux du Perche.
Mais oui, donc votre épouse viendra se reposer, elle, dans le Perche.
Voilà, elle ne vient prendre que les bons côtés du Perche chaque week-end.
Voilà. Alors, effectivement, vous avez passé un concours pour être sous-préfet. Comment ça s'est passé ?
Alors, après avoir fait 9 ans en préfecture de l'Essonne, où j'ai exercé comme contrôleur de gestion, donc chargé de veiller à l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre dans une grosse préfecture, j'ai exercé 5 ans en préfecture ensuite comme chef du bureau du séjour des étrangers, donc avec un sujet très, très prégnant, très important pour un département comme celui de l'Essonne, où on estime à environ 140 000 la population étrangère dans le département. Après, j'ai donc franchi différents grades de mon précédent corps d'attaché du ministère de l'Intérieur, et j'ai souhaité voir comment on pouvait travailler en administration centrale en n'étant pas très loin. Je voulais voir comment on pouvait concevoir et comment étaient conçues les politiques publiques mises en œuvre par ce ministère de l'Intérieur que j'affectionne particulièrement. Et donc, je suis allé 3 ans à la DRH du ministère de l'Intérieur, la Direction des Ressources Humaines, d'abord pour tous les fonctionnaires on va dire du périmètre secrétariat général, comme nous disons de façon un peu technique, puis après pendant un an au profit de la police nationale.
Et vous avez passé un concours pour devenir sous-préfet, alors.
Exactement. Un de mes préfets m'a demandé de voir comment j'envisageais ma carrière dans 5 ans. Ouais. Je n'avais pas vraiment eu l'idée moi-même. J'avais d'autres postes qui me plaisaient dans le corps des attachés d'administration. Et je n'envisageais pas particulièrement de passer dans ce qu'on appelle la haute fonction publique. Et puis l'un de mes préfets et son secrétaire général m'ont fortement incité à me projeter un peu plus loin. Et donc j'ai passé ce qu'on appelle un tour extérieur de sous-préfet, c'est-à-dire une sorte de concours où nous déposons un dossier et nous avons un grand oral.
Votre prédécesseur.
Alors un petit peu. Elle venait d'un autre corps, c'est-à-dire que moi je suis un pur produit depuis 2003 du ministère de l'Intérieur, tandis que Francine Forterre-Chapard venait du ministère de la Défense.
Donc
elle était en détachement, puis a été intégrée comme sous-préfète.
Et donc vous avez réussi à ce concours et vous avez été nommée à Nogent-le-Rotrou.
À Nogent-le-Rotrou, exactement.
Alors justement, quand on est nouveau comme ça, eh bien peut-être revêtir l'uniforme. Quelles ont été vos réactions quand vous avez revêtu cet uniforme pour la première fois ?
Alors c'est beaucoup d'émotions parce que l'uniforme, le chêne et l'olivier qui part cet uniforme sont symboles de paix pour l'olivier bien sûr et le chêne de stabilité, de continuité de l'État. Et ce sont des notions qui font référence un petit peu à mon histoire familiale où mon père était gendarme, mais mes frères et sœurs ont été militaires. Et donc l'uniforme, je connais ce que ça représente
personnellement. Mais là, c'est quand même très différent.
Et là, c'est un uniforme qui veut dire qu'on représente l'État. On s'en habille pas tous les jours. Quand on le met, on représente l'État sur le territoire. Et ça, c'est un symbole très fort.
Oui.
C'est pas un uniforme de gendarme ou c'est l'appartenance finalement à un corps, à une profession. Là, c'est un symbole plus fort. On représente l'État quand on a cet uniforme-là. Donc oui, il y avait beaucoup d'émotions quand j'ai revêtu cet uniforme-là.
J'imagine que quand vous avez fait ce dépôt de gerbes, l'émotion a été encore plus grande.
Oui, le dépôt de gerbes, alors on l'essaye avant, donc on voit un petit peu quelle allure on a avec ce magnifique uniforme. Et puis pour le dépôt de gerbes, effectivement, c'est une cérémonie traditionnelle, républicaine, où effectivement là, l'émotion est importante, c'est solennel, on apprend, on nous dit comment faire pour nous mettre un peu plus à l'aise, mais malgré tout, l'émotion est importante.
J'imagine. Alors maintenant, vous êtes sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, et j'aimerais que vous me disiez en fait ce que vous représentez à travers justement cet arrondissement de Nogent-le-Rotrou. Il y a plusieurs arrondissements, bah peut-être vous pouvez un peu nous expliquer cela.
Dans l'Eure-et-Loire, dans le département de l'Eure-et-Loire, le sous-préfet est le représentant du préfet. C'est-à-dire que pour l'Eure-et-Loire, nous avons 4 arrondissements qui divisent le département de l'Eure-et-Loire.
Oui, les 3 autres.
Châteaudun, Dreux, Chartres lui-même, qui est un arrondissement, à la tête duquel on trouve une sous-préfète, qui est aussi secrétaire générale de la préfecture, et puis Nogent-le-Rotrou. Donc nous sommes 4 sous-préfets d'arrondissement.
À Châteaudun, il y a aussi un sous-préfet.
À Châteaudun, il y a aussi un sous-préfet, Emmanuel Bafour, qui a un parcours très comparable au mien.
Oui.
Nous sommes d'ailleurs en binôme tous les deux, c'est-à-dire quand l'un est en congé, l'autre ne devrait pas l'être, et inversement, sauf impossibilité.
Et à Dreux ?
Et à Dreux, eh bien, il est en binôme avec le directeur de cabinet, puisqu'il y a un autre sous-préfet auprès du préfet qui est particulièrement chargé de la sécurité dans le département, c'est le directeur de cabinet du préfet.
Très bien.
Et donc, le directeur de cabinet du préfet fait un binôme avec le collègue de Dreux.
Donc, vous pouvez donc vous arranger pour avoir des vacances, chacun, puisque vous travaillez en binôme. Ça,
oui.
C'est important de le savoir. Alors, peut-être parlez-nous de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, des cantons.
Alors, ces cantons, il y en a quatre. Il y a surtout une identité très forte qu'on ressent à Nogent-le-Rotrou.
Oui.
Outre les différentes subdivisions, les 52 communes, ou ces différents cantons, ou les différents établissements publics de coopération intercommunale, qui est une façon d'administrer le territoire récente, moderne, que l'État essaye de porter le plus haut possible, ce qu'on appelle les EPCI, qui sont des regroupements en fait, de communes pour mettre en œuvre une politique de transport, des déchets, de gestion des déchets, l'eau
donc,
éventuellement.
Donc vous avez un rôle important parce que vous représentez presque 40 000 habitants.
C'est ça. L'arrondissement représente un peu plus de 38 000, un petit peu moins de 39 000 habitants,
voilà.
Effectivement.
Alors vous avez une mission de surveillance puisque vous intervenez dans plusieurs secteurs. Alors justement, à l'heure actuelle, comment faites-vous avec la mise en œuvre de politiques nationales et communautaires ? Ça me paraît très important.
Alors on a un rôle essentiel. Le rôle du sous-préfet a changé. Et ces domaines-là étaient des domaines sans doute un peu moins importants pour les collègues qui exerçaient il y a 20 ans.
Oui.
Le rôle du sous-préfet était un rôle essentiellement régalien, de sécurité, d'assurer la sécurité. Sécurité dans l'arrondissement, en lien avec le directeur de cabinet que j'évoquais tout à l'heure. Désormais, on attend de nous autre chose. La sécurité toujours, mais aussi d'être un facilitateur pour mettre en œuvre les politiques communautaires d'aide, par exemple.
Mmh.
On peut penser au FEDER ou à d'autres fonds européens pour le développement des territoires. Et donc, le sous-préfet, il fait le lien. Il a la mainmise sur quelques crédits encore, quand même, au niveau
pourquoi
national.
Pourquoi vous dites encore ?
Parce que les enveloppes se réduisent, bien sûr. C'est le budget de l'État connaît des difficultés depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, les dotations que délivre l'État aux collectivités ont cette tendance à se réduire. Malgré tout, il y a de nombreuses façons d'aider. Et donc, le rôle du sous-préfet, c'est de repérer les projets et de financer ces projets-là.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec monsieur le sous-préfet de Nogent-le-Rotrou qui est arrivé il y a peu de temps, le 28 juin très exactement. Et dans une première partie, il a évoqué son parcours et aussi ce qu'est le rôle d'un sous-préfet dans l'arrondissement. Alors, monsieur le sous-préfet, vous êtes l'animateur du développement local. Et j'aimerais savoir déjà comment vous avez commencé votre rôle de conseil que vous êtes pour les communes de l'arrondissement. J'imagine que vous avez commencé par des visites et que vous avez noué des relations et aussi vu les projets, encouragé ou découragé certains projets. Voilà tout ce que je vous demande.
C'est exactement ce que doit faire le sous-préfet d'arrondissement. C'est d'abord prendre contact Avant son arrivée même, on envoie des lettres, alors on appelle ça des lettres de château, c'est-à-dire oui. qu'on envoie des lettres de courtoisie aux grands élus de l'arrondissement. Et puis après, dès sa prise de poste, on essaye d'en rencontrer le plus possible. Mais ce ne sont pas que les élus. On rencontre bien sûr tous les élus, les maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux de son arrondissement, députés, sénateurs, ça va de soi, mais aussi les grands chefs d'entreprise, des exploitants agricoles, des représentants des différents cultes.
Les présidents d'associations.
Les présidents d'associations, effectivement. Alors, on essaye de mixer un peu tout ça avec les priorités, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va, rencontrer d'abord les grands élus, les communes les plus importantes, puis les porteurs de projets qui ont un projet mûr. Puis ensuite, les chefs de service déconcentrés de l'État, aussi très important pour connaître les techniques. Le sous-préfet n'a plus les moyens de faire seul. Donc on utilise beaucoup les autres services de l'État.
Alors par exemple ?
Par exemple, la direction départementale des territoires et ses différents services.
Alors ça, c'est à Chartres ?
C'est à Chartres. Donc,
vous êtes déjà allé plusieurs fois à Chartres,
voilà.
Vous avez rencontré le préfet, l'aviez-vous rencontré avant d'arriver à Nogent-le-Rotrou ?
Oui, avant. Le préfet, ce qui est bien normal pour un de ses proches collaborateurs, donne son avis sur, même si c'est un décret présidentiel qui nomme les sous-préfets. Dans la mécanique pour obtenir un sous-préfet, il est bien sûr question d'obtenir l'avis du préfet en place.
Oui, donc avant que vous soyez arrivé à Nogent, le préfet avait donné son avis sur votre arrivée.
Exactement. Et donc très vite, on se rencontre.
Et votre rendez-vous a duré longtemps ?
Il a duré longtemps,
voilà.
On a dû parler 1h45 ou 2h.
Voilà. Donc vous saviez déjà tout avant d'arriver à Nogent-le-Rotrou, si je puis dire, quant à l'économie, la politique, la sécurité, parce que je vais revenir beaucoup.
Oui, il donne des clés sur l'arrondissement. Alors on voit d'abord si le contact s'établit bien, et puis on en vient à échanger sur l'arrondissement et sur le poste. Il donne effectivement les grandes clés pour comprendre son territoire. Il donne aussi pas mal de documentation à lire avec les autres collègues aussi. Son secrétaire général ou son directeur de cabinet vous fournissent des documents pour connaître la population, la démographie, la sociologie de l'arrondissement, les grands projets, les futures grandes étapes.
Alors, à partir du moment où vous connaissez un peu et la situation grâce au préfet et aussi la situation grâce aux visites que vous avez faites, eh bien, j'aimerais que vous expliquiez, puisque vous êtes le garant de l'ordre public, comment vous avez travaillé sur ce sujet-là. Parce que à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est quand même extrêmement important, c'est pourquoi je commence par ça.
Oui, c'est une priorité. La sécurité, c'est la garantie de toutes nos libertés.
Oui.
Donc, c'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, le rôle de l'État est évidemment d'abord de garantir la sécurité.
Alors, comment à Nogent-le-Rotrou avez-vous agi ?
Alors, à Nogent-le-Rotrou, c'est assez simple puisqu'il y a une force de sécurité présente sur le territoire qui est la gendarmerie.
Oui.
Donc, c'est d'avoir un contact très régulier avec la compagnie de gendarmerie et les brigades. Donc, je les ai rencontrés très tôt.
Oui.
Très tôt, on a été ensemble sur le terrain. J'ai pu les accompagner sur des contrôles sur réquisition pour fouilles de véhicules ou encore sur une intervention la semaine dernière d'un usager retranché.
Oui, alors ça, ce serait bien que vous expliquiez parce que j'étais justement avec vous quand ça s'est passé et les gens ne savent pas forcément votre rôle. Et là, vous avez dû aller, peut-être racontez-nous ce fait divers, mais qui est quand même assez marquant.
Alors, je peux le raconter en partie, car c'est une affaire qui est désormais judiciaire,
oui,
et donc seul le procureur de la République.
Voilà.
Alors, l'intérêt de mon déplacement, c'est d'assurer...
Oui, parce que la gendarmerie vous a appelé, on a un forcené, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, ils savent.
Oui.
Mais c'est plutôt, on vous tient informé de manière à ce que vous puissiez informer le préfet et un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'eux sont dans l'action.
Oui.
Moi, j'interviens pour les soutenir à la fois moralement, mais en soutien stratégique après, si vous voulez. Donc, c'est eux qui interviennent, bien sûr.
Bien sûr.
Moi, je me tiens en retrait. Je peux être témoin. Mmh. Je peux les soutenir. Je peux alerter. J'ai pris contact avec le maire, par exemple, très vite, pour lui dire voilà ce qui se passe sur votre commune. sachant que, bien sûr, il laisse faire la gendarmerie, ouais, mais il est important de le tenir informé. Donc, vous voyez, c'est une courroie de transmission, un soutien auprès des gendarmes. Il y a eu de blessés très légers, donc juste voir comment ils allaient, si ça se passait bien. L'intervention a été mouvementée. Donc, c'était bien que je puisse être là comme témoin de leur travail, du sérieux du travail qui a été fait.
Donc, vous travaillez en étroite collaboration avec la gendarmerie.
Oui, nous avons des réunions hebdomadaires, et puis des contacts téléphoniques quasi quotidiens.
Et est-ce que, quelquefois, vous avez dit « j'aimerais bien qu'il y ait telle chose de faite en plus »
Alors, ce n'est
pas votre rôle.
C'est mon rôle par rapport aux événements. C'est-à-dire que telle mère va souhaiter faire une fête de village, etc. Donc, voir avec lui quelles conditions de sécurité doivent être mises en place, eh bien, je mets en relation où je vois le gendarme, le commandant de compagnie ou son représentant. Et puis, je fais la relation avec le maire pour voir si on met en place une fouille à l'entrée ou garantir.
Alors, nous avons aussi la chance d'avoir la sécurité civile à nos gens. Est-ce que vous travaillez aussi en étroite collaboration ?
Étroite collaboration, oui, mais les missions de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, la première unité ou premier régiment, l'appelle un peu des deux façons, travaillent essentiellement sur des commandes qui viennent du ministère. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au service de la population locale. C'est une unité qui a une vocation à être exportée partout, y compris à l'étranger, sur les événements majeurs. Donc elle peut être engagée localement, mais sur une décision qui va être ministérielle.
Oui. Mais j'imagine que vous avez rencontré tout de suite
Bien sûr. Ils ont un matériel qui est appréciable et il n'est pas exclu que en cas de difficulté locale où les services locaux du service départemental d'incendie et de secours seraient presque saturés par les besoins, ils ne puissent pas dégager quelques moyens pour les aider. Oui. Mais le cheminement serait toujours le même, c'est-à-dire que je ferai une demande qui remonterait au ministère pour un engagement local.
Bien sûr. Alors, vous êtes également coordinateur important des administrations déconcentrées. Et donc, pour cela, vous vous appuyez sur, je dirais, les notables locaux. Alors, est-ce que vous avez déjà déjà rencontrés? Et aussi, quels sont les sujets brûlants, si je puis dire, que vous avez abordés?
Alors oui, les notables, c'est un mot un peu connoté, mais j'ai rencontré au moins les élus importants, voire quasiment tous les élus bientôt là de mon arrondissement. Oui. Les sujets importants que j'ai pu aborder avec eux, ça va être leurs projets déjà locaux. Je donnerai un exemple. Oui. À Saint-Victor-de-Buton, par exemple, il y a une opération de réaménagement, de réhabilitation du centre, centre-bourg. Et donc, l'État verse une subvention. Et donc, ils m'ont fait participer à un comité de pilotage pour voir un peu quels étaient les projets mis en œuvre par le cabinet d'expertise qu'ils avaient retenu. Oui. Donc, j'ai un rôle pour les aider pour le suivi de ce projet-là. Donc, pour eux, c'est important.
Bien sûr.
Il y a d'autres chantiers.
Il y a Nogent-le-Rotrou.
À Nogent-le-Rotrou, il y a plusieurs projets d'envergure sur l'utilisation, par exemple, des anciens abattoirs.
Oui.
L'utilisation aussi de la valorisation du château.
Peut-être aller plus loin pour les anciens abattoirs, parce que c'est quand même important pour Nogent-le-Rotrou, ce que ça va devenir.
Alors, oui, c'est important. Alors, c'est encore un projet. Tout n'est pas totalement fait, mais l'idée serait d'implanter des ateliers de découpe d'une société du Coudray-au-Perche pour valoriser cet espace-là et recentraliser un petit peu leur production qui est locale et qui est un beau projet qui entraînerait des embauches.
Oui, alors à combien ?
Les chiffres sont difficiles parce qu'ils rapatrient des activités existantes. Donc, est-ce que leurs salariés vont tous suivre ou pas ? Ça, c'est une grande question qui fera varier les objectifs. Ça sera sans doute plusieurs dizaines.
Donc, vous êtes médiateur, mais aussi, disons, absolument un acteur incontournable sur le plan local. Et vous-même, est-ce que vous vous sentez des missions à faire sur le plan local ?
Oui. Alors, on a pu citer d'exemples. Actuellement, je crois que je dois être absolument vigilant sur les questions agricoles et de récoltes catastrophiques.
Oui, parce que ça vraiment, les agriculteurs sont beaucoup à plaindre parce que les récoltes vraiment sont vraiment très mauvaises et à cause de la température, de la pluie, du soleil, enfin tout s'est très mal passé.
Exactement. Donc ça, c'est ma première vigilance là. Donc je vais essayer de rencontrer des agriculteurs, qu'on me signale les cas difficiles. J'ai un réseau qui permet éventuellement d'aider les agriculteurs. Je ne vais pas pouvoir venir avec des finances.
Oui.
Il n'y a pas de magie dans ce travail-là. En revanche, je peux mettre les gens en réseau et leur faire voir d'autres perspectives. Donc ça, c'est important. Ce serait ma première priorité. La seconde serait le développement économique. On a cité quelques projets, il y en a d'autres. Et enfin, réussir, par exemple, la fusion des deux EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, que sont les portes du Perche, pardon, à la Loupe, et le Perche Tironnais à Tirongardé. Essayer de faire en sorte que le nouvel établissement public qui réunira les deux fonctionne bien. Ça, ce sont mes objectifs sur le court terme.
Alors, historiquement, la sous-préfecture est une administration qu'on disait de guichet. Est-ce qu'à Nogent-le-Rotrou, il en est encore, c'est encore possible? Ça, c'est très important pour nos auditeurs parce que préfecture, c'est aussi ça pour eux.
Oui, c'est une question très importante pour nos concitoyens. La sous-préfecture de Nogent accueille tous les matins pour les cartes grises et différentes autorisations de police administrative. Pour l'instant, c'est un dispositif qui reste, mais il n'a pas vocation à s'étendre. En revanche, se développe sur le département, et je suis en charge pour l'ensemble du département de cette question-là, du développement des maisons de services au public.
Alors ça, c'est très important. Expliquez-nous.
Alors, ces maisons de services au public accueillent différents opérateurs, la Poste, la MSA, la CAF, mais ça peut être aussi sur des informations pour les impôts, par exemple, avec la Direction départementale des finances publiques, où on peut aider les concitoyens à faire leur démarche. Ces maisons peuvent s'étendre, peuvent même incorporer des services qu'on pourrait trouver en préfecture. Donc, on est en train de faire une cartographie et en septembre, on aura un panorama complet.
Eh bien, peut-être reviendrez-vous en septembre pour nous expliquer cela plus longuement. Un grand merci, monsieur le sous-préfet, et nous sommes très heureux que vous arriviez à Nogent-le-Rotrou.
Avec plaisir. Merci, Christiane Blain.
Eh bien, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter notre émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, monsieur le sous-préfet.